Bonsoir à tous, mercredi soir, 22h, comme toutes les semaines ou presque, c'est l'heure d'écouter Alter Echo, l'émission de contre-information et de critique des médias. Olivier au micro. Alter Echo, c'est donc le mercredi à 22h, mais il y a aussi la rediffusion le vendredi à 14h. Vous pouvez également écouter en direct l'émission sur le site internet de Radio Campus. Et puis, il y a le site internet de l'émission, www.multimania.com/alterecho, en un seul mot et avec CH. Chose promise, chose due, aujourd'hui l'émission est entièrement consacrée à l'affaire du trou en général et en particulier au dossier X avec en studio Marie-Jeanne Van Essuyck qui est co-auteure du livre Les dossiers X. Nous y reviendrons au cours de l'émission. Je vous le disais, chose promise, chose due, ça fait longtemps que je vous parlais de cette fameuse émission sur les dossiers X. Finalement, j'en suis arrivé à la faire à l'occasion notamment du débat de l'écran témoin qui a eu lieu lundi dernier, il y a 2 jours, qui parlait justement de pédophilie en réseau. Je vous l'ai dit, en studio, nous avons Marie-Jeanne Van Essuyck, co-auteure avec Douglas de Koning et Annemie Bulté du livre Les dossiers X. Bonsoir Marie-Jeanne.
Bonsoir.
Nous aurions aimé avoir aussi des contradicteurs puisqu'il s'agit d'une affaire de clan. Le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des contradicteurs pour des raisons diverses. J'aurais voulu inviter Philippe Bréwais ou Jean-Frédéric Deliège du Soir Magazine, l'ancien Soir Illustré, mais ça ne les intéressait plus. Ils sont sur d'autres affaires. J'ai demandé à Jean-Claude Van Troyen du Soir, qui avait d'abord accepté, puis qui finalement avait l'impression d'avoir trop perdu le dossier de vue, donc il l'a refusé. Un autre journaliste du soir pensait ne pas suffisamment bien le connaître. Il y avait évidemment René-Philippe Dahan qui a écrit un livre qui contredit totalement les thèses justement des dossiers X et dans son livre L'enquête manipulée, mais malheureusement René-Philippe Dahan est à l'hôpital suite à un grave accident. Et finalement, la seule voix dissonante que j'ai réussi à avoir, c'est Gérard Rogge, au nom de la loi, RTBF Charleroi, qui n'est pas en studio, mais j'aurai des extraits d'interviews que Marie-Jeanne, tu pourras commenter. Les auditeurs sagaces auront remarqué que je tutoie Marie-Jeanne. C'est pour une raison toute simple, c'est que j'ai traduit le livre vers le français, c'est-à-dire les parties du livre que tu n'as pas écrites, mais qui ont été écrites par Douglas de Koning et Annemie Bulté. Donc les auditeurs n'auront qu'à juger eux-mêmes si ça remet en cause mon objectivité, en tout cas au moins ils le sauront, pas d'hypocrisie sur cette antenne. Alors le but de cette émission, je l'ai dit, la cause directe, enfin l'occasion directe, c'est le débat qui a eu lieu à l'écran témoin et qui était pour une fois à l'RTBF sans trop de langue de bois. On a parlé assez franchement de la pédophilie en réseau. Justement, c'était plus ou moins une première parce que c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre, mais de façon diversement, disons, proche de la vérité. Et apparemment, une contre-information s'impose suite à l'absence souvent d'informations tout à fait exactes dans la presse et suite aussi aux nombreuses manipulations qu'il y a pu y avoir à ce sujet dans la presse. Donc, l'affaire du trou en général, les dossiers X en particulier, je propose qu'on commence par l'affaire du trou, c'est-à-dire celle que tout le monde connaît, l'arrestation du trou et puis cet emballement immédiat du pays, du monde judiciaire, politique, de la presse. Et dans les premiers jours, finalement, c'est un peu la folie parce que les enlèvements, en tout cas les disparitions, ont été assez médiatisées. On voyait partout les photos de Julie et
Oui,
Mélissa, Enéifia,
tout à fait.
etc. Le sujet était très connu. Et tout à coup, on a coincé un type qui avait fait tous ces forfaits-là. Donc, ça a logiquement mené à une émotion forte. Au départ, toute la presse qui après s'est retirée sur la pointe des pieds parlait de grands réseaux internationaux avec des personnalités hyper haut placées. Finalement, on faisait même beaucoup trop. Et puis, petit à petit, on y reviendra, mais petit à petit, c'est passé complètement de l'autre côté. Comment expliquer d'abord cette surenchère du départ?
Mais je ne sais pas si on doit parler de surenchère. Je pense qu'il y avait, comme vous disiez, ce...
Tu peux me tutoyer aussi, hein, on
Il y
n'est pas la
avait,
RTBF.
comme tu disais, Olivier, cette émotion, mais qui est quelque chose de terrible. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, Julie et Mélissa, c'était un petit peu les petites filles de beaucoup de gens dans ce pays, parce que les Rousseau et les Lejeune menaient un vrai combat. C'était Marie-Noëlle Bouzet l'avait fait avant eux pour retrouver sa fille Elisabeth Bréchet. Mais ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont toujours essayé de savoir ce que leur fille était devenue, alors que manifestement, du côté de l'enquête et du côté des magistrats, on n'y croyait plus. Alors, évidemment, on découvre l'horreur, puisqu'on retrouve deux filles vivantes. Il y a Sabine et Laetitia qui sont enfermées dans la cage de Dutroux. On retrouve Julie et Mélissa mortes et on retrouve Anne et Eve mortes. Ça fait beaucoup. Et on découvre presque aussitôt que Dutroux, c'était quelqu'un qui était connu depuis longtemps. C'est quelqu'un sur qui la gendarmerie avait mené une enquête relativement secrète. Ça a provoqué évidemment beaucoup de polémiques. Ça a été un des gros sujets de discussion de la commission d'enquête parlementaire qui a suivi. Mais quand on découvre que pratiquement 15 jours ou 3 semaines après la disparition de Julie et Mélissa, la gendarmerie, certains services de la gendarmerie savaient que Dutroux était suspect, ça a provoqué un choc qui était terrible. Alors, la surenchère, il y en a eu, c'est sûr, parce que dès qu'on parle de réseau et dès qu'on parle de protection, alors on imagine tout de suite qu'il y a des protections haut placées, parce que
Et
c'est
comme il y a
pas...
une presse à sensation, le mélange ne manque pas de se
Ça
faire.
aussi, mais enfin, on imagine bien qu'un quidam, je ne sais pas moi, un balayeur dans une usine, ça n'a rien de péjoratif ce que je dis, mais je vois, c'est très difficile de protéger quelqu'un. Alors il faut quand même être à un poste clé quelque part pour étouffer quelque chose. Donc à partir du moment où vous parlez de réseau qui a été plus ou moins protégé, quels que soient les mots qu'on utilise, on va parler de personnalité haut placée. Mais ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que même s'il y a eu certainement de l'emballement au début, la presse n'a fait que répercuter ce qu'elle apprenait, ce qui était dit officiellement au point presse, donc ce qui était dit aux journalistes. Et à l'époque, on en parlait parce que, enfin, c'est pas une invention médiatique, je veux dire, c'est les inculpés eux-mêmes qui ont parlé de réseau. Très vite, il y a eu Michel Martin, Michel Lelièvre, qui ont parlé de commandes. Qui ont dit que ces enlèvements, ils ont cité, dans leurs auditions du début, en tout cas, ils citent le fait que les enlèvements étaient réalisés pour Michel Nioul. On sait, on a découvert assez rapidement qu'en 93 déjà Dutroux, donc il faut savoir, faut se rappeler que Dutroux avait déjà fait de la prison parce qu'il avait violé, torturé et filmé 5 jeunes filles dans les années 85. Il est sorti de prison en 92 et à partir de 93, il a été surveillé. Et des informateurs sont venus dire au service de police que Dutroux leur proposait d'enlever des enfants contre rémunération. Et Dutroux expliquait que c'était très facile à faire. Il expliquait comment s'y prendre et disait que ça rapportait beaucoup. Donc, ce sont des informations, ce sont des faits, ce sont des
La base était
témoignages
là, quoi,
voilà, et
clairement,
qui
ouais.
existaient déjà depuis 93. Et en 95, Julie et Mélissa disparaissent. En 96, l'affaire Dutroux éclate. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a les caches. Il enferme bien les enfants dans les caches. Il a bien énormément de contacts avec les pays de l'Est. On constate tous ces éléments et l'incompréhension est là. Les résultats de la commission d'enquête parlementaire, ce sera de dire que c'était de l'incompétence, du dysfonctionnement ou de l'incompétence ou de la paresse. Moi, je crois que c'est un petit peu facile. Évidemment qu'il y en a. Évidemment, il y en a. Mais il y a peut-être d'autres choses là derrière qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.
Ouais, et on en reparlera tout au long de cette émission. Alors, donc, on l'a dit, au début, c'est vraiment l'ébullition. On se souvient du dessaisissement de Conrot, des réactions que ça a suscité, de la marche blanche, tout ça. Et puis, après, grosso modo, une petite année, il y a toute une partie, disons même une majorité de la presse, qui commence à revirer, qui commence à dire, tiens, non, finalement, il n'y avait pas tout ce qu'on avait dit. Certains qui disent même, Nioul était finalement un escroc plutôt sympathique, etc. Et c'est un peu une évolution du noir au blanc. D'abord, comment est-ce que ça a pu se faire, ça?
L'évolution, moi, on l'a pu la voir dans la presse, dans tous les domaines.
Tout à fait.
On se rappelle bien, au début de l'affaire Dutroux, on sait qu'on a saisi environ, enfin, à une époque, le point a été donné, 5 000 cassettes vidéo dans l'affaire Dutroux. Et on peut relire la presse de l'époque, il y avait des tas d'articles qui expliquaient que sur ces cassettes, Dutroux était en train de violer des enfants. Il y a eu des tas de reportages pour expliquer ce qu'était le stress team de la gendarmerie. C'est une équipe de psychologues qui sont chargés d'épauler les gendarmes en situation difficile. Alors il fallait faire appel à ce stress team pour épauler les gendarmes qui devaient visionner toute la série de cassettes de Dutroux, trouvées chez Dutroux et chez d'autres personnes. Alors, un an plus tard environ, la conclusion c'était quoi? Il n'y a rien sur les cassettes de Dutroux. Il y a une scène, semble-t-il, où Dutroux viole une jeune fille slovaque, mais il n'y a rien. Alors, quand on dit ça un an plus tard, beaucoup de gens se disent, bah, tiens, ils ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé. Et beaucoup d'autres se frottent les mains en se disant, bon, ben, ça va, il n'y a rien.
Pourquoi ils se frottent les mains d'ailleurs?
Parce que c'est quand même plus facile.
Et qui sont ces gens qui se frottent les mains?
Ah ben ça peut être tout le monde, hein. Ça peut être, il peut y avoir très bien des gens dans le public qui n'ont pas envie d'apprendre ou d'entendre ou de connaître ce genre de choses. Il y en a peut-être d'autres qui ont envie de protéger leurs petits intérêts personnels. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes journaliste et que vous êtes en fait chargé de rapporter au public ce qu'on a appris, les choses qu'on a apprises, et qu'on ne se pose plus de questions. Alors, c'est inqualifiable. Il n'y a plus de mots. Et c'est ça qui s'est passé.
Oui, et c'est là aussi que prend naissance cette distinction, principalement dans la presse, entre ce qu'on dit croyant et ce qu'on dit non-croyant. Il y a eu un livre sur l'affaire Dutroux et la presse, réalisé par l'Observatoire médiatique de l'Université catholique de Louvain, où on fait la distinction entre journalisme émotionnel, empathique, qui est jugé bien sympathique, et ça c'est les croyants évidemment, mais pas très efficace, et d'autre part, les non-croyants, le journalisme rationnel d'investigation qui garde la tête froide, etc. Cette distinction, finalement, il y aurait moyen de l'inverser, en tout cas, d'après toi.
En tout cas, moi, je peux dire que je suis capable d'émotion, je suis capable d'empathie, je ne le renierai jamais. Ça fait partie de ma personnalité et ça fait partie de ma manière de vivre et de comprendre le monde. Et ça n'a, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu que ces choses empiétaient sur mon travail professionnel. Parce que dans le travail professionnel, je pose des questions à gauche et à droite. Et j'expose le résultat. C'est vrai qu'on a, à un moment donné, on a écrit dans un sens qui a pu apparaître comme une thèse qu'on défendait. Mais il faut bien se rappeler qu'on a, quand je dis on, je parle souvent de Douglas de Kooning et Anne Mibulté dans Le Morgue, moi-même à Télémoustique. Il y a l'un ou l'autre journaliste qui ont essayé, comme nous, hein, de comprendre la vérité. Mais quand on a écrit, on arrivait après toute une série d'articles qui assénaient une vérité officielle sans nuance.
Oui, c'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que les non-croyants ou ceux qui sont dits tels sont finalement ceux qui se posent pas de questions. Et en tant que tels, on pourrait plutôt les qualifier, eux, de croyants.
Voilà, pour moi, ce sont les croyants. Quand on ne pose plus de questions, quand on est sûr des réponses, quand on ne met plus en doute une affirmation officielle qui est contredite par des faits ou qui est contredite par des témoignages, quand on gomme certaines parties de la vérité pour que l'explication qu'on va donner au public, l'exposé des faits qu'on va donner au public soit cohérent, je considère qu'on ne fait pas son travail. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de faire face à une réalité qui est moins solide. C'est un peu l'exemple de ce dossier. On ne peut pas dire aujourd'hui si Dutroux avait des clients et qui sont ses clients, puisque l'enquête, semble-t-il, ne les a pas découverts. Mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a divisé les dossiers Dutroux. Alors qu'on
Le
sait que
fameux
la
saucissonnage, hein.
Voilà, on sait que la criminalité est organisée, on sait que Dutroux trafique dans tous les coins et dans toutes les matières depuis toujours.
Et ça évente pas
En
mal de
coupant,
questions, en
bah
fait, ça.
évidemment, en coupant le dossier en deux, on met dans un parquet les recherches sur tout ce qui est, par exemple, vol de voiture, et on garde dans celui de Neuchâtel les recherches sur les enlèvements d'enfants. Donc on se coupe de toute une série de renseignements qui doivent être utiles à l'enquête. Là, il y a des questions à se poser.
Alors, je l'ai dit, Gérard Rogge est un des principaux journalistes d'Au nom de la loi. Au nom de la loi s'est distingué justement par le côté fer de lance qu'ils avaient dans le camp dit des non-croyants. J'ai fait une interview et j'ai commencé évidemment par lui poser la question sur sa vision de l'affaire du trou et notamment comment on avait pu passer de cette extrême effervescence à un côté tout à fait dégagé. Et pour lui, au départ, il y avait l'émotion, mais pas uniquement l'émotion. Je te propose de l'écouter.
Mais moi, je pense qu'il y a l'émotion, mais aussi le fait qu'on a découvert dans l'entourage de Dutroux des gens comme Michel Nioul, un personnage qui, par ailleurs, disons, avait déjà fait parler de lui pour diverses escroqueries. Et très vite, on s'est lancé sur cette piste, que ce soit les enquêteurs ou les journalistes. Il y a eu pas mal d'articles décrivant la vie de Nioul, ses présumées accointances avec certains milieux politiques et autres. Et finalement, Dutroux, à partir d'un certain moment, est presque passé au second plan. On est parti sur une piste, disons, internationale ou nationale, avec peut-être des hauts placés, des personnalités politiques, judiciaires qui auraient été impliquées dans cette affaire. Et, disons, passer le temps de l'émotion, à partir du moment où on a pu vraiment faire un travail journalistique, on s'est aperçu que cette hypothèse-là reposait vraiment sur peu de choses. Et au fil du temps, au fil des mois, on s'est aperçu qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'éléments, et même pas du tout quasiment, qui pouvaient rattacher Dutroux à une filière, à un réseau de grande ampleur.
En conclusion, c'est un prédateur isolé. Et en fait, quand on dit isolé, bon, c'est pas exactement ça. Il avait quelques complices un peu
Mais je
encore.
crois que pour comprendre Dutroux et sa manière de fonctionner, il faut se reporter quelques années en arrière, à l'époque où il a été arrêté et condamné à une quinzaine d'années de prison pour diverses affaires de viol sur des mineurs, des filles qui avaient de 14-15 ans. Je crois que la plus jeune devait avoir 14 ans, la plus âgée 20 ans. Et on a là tout le modus operandi de Dutroux. On voit comment il fonctionne, on voit comment parce que c'est un personnage assez lâche, il a toujours besoin d'un complice pour exécuter ses basses œuvres. Et à l'époque, donc, Dutroux enlevait des jeunes filles dans la rue, un peu sous le coup de l'impulsion. Il embarquait dans l'histoire un comparse qui l'aidait. Donc on a eu à l'époque donc les témoignages de ces jeunes filles qui toutes ont été violées, mais qui n'ont jamais rencontré d'autres personnages que Dutroux lui-même.
Donc en somme, c'est un peu une répétition d'une affaire qui avait déjà similaire qui avait déjà eu lieu bien auparavant. Mais alors, comment expliquez-vous?
Disons que par rapport aux témoignages qui ont été donnés à l'époque par les multiples victimes du trou, on peut, disons, dégager un portrait psychologique de du trou, mais aussi s'apercevoir que c'est un prédateur, comme on dit, et un prédateur isolé, mais qui utilise à certains moments l'un ou l'autre complice pour accomplir ses forfaits.
Mais alors, comment expliquez-vous que si cette affaire s'est maintenant dégonflée, et disons assez rapidement, allez, compte tenu de l'affaire, après 1 ou 2 ans, ça s'est dégonflé, dirons-nous, pourquoi cette fois-ci, le procès, va intervenir probablement 6, 7, voire 8 ans après, l'arrestation du trou, alors que la fois passée, pour des faits similaires, ça avait été finalement assez rapide?
Oui, mais il y a des raisons bien précises à cela. C'est justement le fait que on se soit lancé sur de fausses pistes qui ont pris énormément de temps. Bon, il y a les témoins X, il y a les soi-disant révélations de l'un ou l'autre repenti ou de l'un ou l'autre pédophile qui voulait négocier une remise de peine et qui a inventé n'importe quoi. Quand vous pensez que pendant des semaines et des semaines, on a fouillé les terris ici dans la région de Charleroi, à Jumet, tout ça sur foi de salade
Oui, qui
que...
étaient en fait des choses montées d'ailleurs.
Tout
Mais
à fait.
alors, comment expliquez-vous qu'on monte...
Encore une fois, on a vu là derrière un complot pour détourner les enquêteurs de la bonne piste, etc.
Mais
Mais
sans prendre,
tout ça.
sans parler du mot complot, pourquoi est-ce qu'on va lancer des fausses pistes dans une affaire qui serait somme toute relativement banale, à part le retentissement qu'elle a eu dans l'opinion publique?
Mais justement, ce n'est pas une affaire banale parce qu'elle a eu un retentissement dans l'opinion publique. Donc, à partir de là, vous voyez arriver sur le marché judiciaire toutes sortes de personnes qui ont soi-disant vu quelque chose, ou alors des personnes qui ont intérêt par rapport à leurs propres problèmes à négocier des choses avec la justice. Il y a des gens qui soi-disant informateurs qui viennent et qui essayent de négocier quelque chose ou qui croient avoir vu quelque chose. Bon, cette histoire de Jumet, eh bien, c'est quelqu'un qui est condamné pour pédophilie et qui, disons, a déjà essayé dans le passé de négocier des remises de peine et qui se dit, ben voilà, une bonne occasion pour négocier une remise de peine. Il va monter tout un bateau aux enquêteurs et on va perdre là un temps fou. Mais il y a d'autres éléments aussi qui font que cette affaire a été ralentie. Je crois que l'antagonisme entre le parquet de Neuchâtel et le juge d'instruction n'ont rien fait pour accélérer les choses. Je crois qu'on a perdu un temps fou à vider certaines pistes qui, en d'autres temps, n'auraient même pas été examinées parce que ne présentant aucun intérêt.
Alors, en bref, une première réaction sur
Bah,
tout ce qu'il a dit en général?
oui, mais personnellement, je trouve qu'on ne peut pas comparer le modus operandi du trou en 85 avec celui de 95, parce que ça ne se passe pas du tout de la même manière. Et puis, les caches sont quand même un élément qui est très, 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 très fort dans cette affaire. On n'enferme pas des gamines dans une cache comme celle-là quand on est un pervers isolé. Je crois que Gérard Rogge a parlé des fausses pistes, moi aussi, mais bien sûr,
Oui, là-dessus, vous êtes d'accord quand même.
non,
Il
il
y
y
a
a
eu
des
des
fausses
fausses
pistes,
pistes.
c'est clair, le tout est de voir, d'essayer de déterminer, mais ça, je crois qu'il n'y a aucune enquête qui essaye de le faire, qui les a lancées, mais il y a des fausses pistes qui sont tout à fait évidentes, comme l'affaire Diropo, comme l'affaire Abrassax, où on a fait fantasmer toute la Belgique à
Sur le
2 jours de Noël,
satanisme, oui.
sur le satanisme, en pensant qu'on allait interrompre une cérémonie où un enfant allait être mis à mort. Ça, c'est vraiment une piste qui a permis de ridiculiser un certain nombre de choses.
Une
Et
autre dont
puis,
parlait Gérard Rogge,
ben oui,
c'est
Jumet.
téléguidé par un pédophile depuis sa
Oui,
cellule pour
mais
obtenir une remise de peine. C'est Ramaker, c'est
oui,
les fouilles de Jumet.
tout à fait. Là, je trouve qu'il a tout à fait raison. Mais là où je trouve dommage, c'est que Gérard Rogge ne va pas voir plus loin et ne va pas voir qui pouvait téléguider Ramaker. C'est ça. Il faut essayer d'examiner et de discuter, d'essayer de se rendre compte pour voir qu'il y avait des avocats, qu'il y avait des policiers derrière Ramaker. C'est qu'il y a des gens qui avaient intérêt à lancer cette fausse piste pour aussi enliser l'enquête, pour ridiculiser Neuchâtel et pour pouvoir dire quelques mois ou quelques années plus tard, vous savez, ces fouilles longues et inutiles et coûteuses de Jumet. Enfin, vraiment, Neuchâtel, on débloque. On parle après du train fou de Neuchâtel. Enfin, tous les mots ont été utilisés comme ça dans la presse par ceux que vous appelez, que tu, Olivier, appelles les non-croyants et que moi j'appelle des croyants. En fait, le problème, c'est qu'au départ, tout le monde a posé des questions et des questions. Enfin, moi, je me souviens quand d'un article du Soir Illustré à l'époque, c'était ça, où il y avait deux colonnes de questions entières sur comment Dutroux et Martin ont-ils obtenu 80 000 francs de la mutualité alors qu'ils sont en parfaite santé? Comment est-ce que Dutroux a eu un permis de port d'armes? Enfin, je ne vais pas les énumérer toutes, hein, mais ce sont énormément de questions que tout le monde s'est toujours posé parce que ces questions étaient essentielles. Et à un moment donné, il y a eu un revirement et on ne pouvait plus poser de questions. Et
Mmh.
ceux qui aujourd'hui continuent à poser des questions, ben, ce sont des empêcheurs de tourner en rond, ce sont des emmerdeurs. Et qu'on soit journaliste ou qu'on soit citoyen ou enquêteur, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien quand on n'a pas été voir s'il y avait quelque chose. C'est un petit peu comme si on était tous au pied d'une falaise. On ne sait pas ce qu'il y a en haut de la falaise, mais il y a toute une série de gens comme Gérard Rock qui disent qu'il n'y a rien là au-dessus.
Mmh.
Parce que c'est très dur à escalader. On ne sait pas très bien si on va arriver jusqu'au-dessus. On ne sait pas si quelqu'un va pas nous faire tomber pendant l'escalade. Et on ne sait même pas si on va trouver quelque chose quand on
Ouais.
sera au-dessus. Seulement, si on dit déjà maintenant qu'il n'y a rien au-dessus, eh bien, ça, c'est être croyant.
Une de ces falaises, une de ces fausses pistes, entre guillemets, c'est évidemment les dossiers X qui font l'objet de cette émission. Là-dessus, évidemment, c'est clair que vous n'êtes pas d'accord, Gérard Rogge et toi. Pour les uns, c'est évidemment une fausse piste. Pour les autres, c'est la clé de l'énigme. C'est même la vraie piste qui aurait suscité toutes les fausses pistes pour qu'elles soient noyées toutes ensemble dans un bain d'oubli. Est-ce que tu peux rappeler en bref ce que c'est ces dossiers X, qui sont les témoins X, comment ils sont arrivés là et quand, etc.
Ben, c'est vrai que fausse piste, moi j'ai effectivement, et comme d'autres, hein, beaucoup réfléchi parce que c'est un problème vraiment tellement grave qu'on ne peut pas le traiter à la légère. Il faut se rappeler que quand l'affaire du trou a éclaté, un certain nombre de jeunes femmes se sont adressées à Neufchâteau pour raconter les sévices sexuels qu'elles avaient subis pendant leur enfance ou leur adolescence. Elles étaient plusieurs, il y avait plusieurs femmes et deux hommes également. Parce que le public, enfin, il y a eu un tel lavage de cerveau médiatique que le public a bien souvent l'impression qu'il n'y en avait qu'une, et c'était
Oui, X1, la
X1-Réginald.
plus célèbre.
Voilà. Ça,
La seule dont on connaît le nom,
je me
finalement,
souviens
aussi.
très bien que le jour où Télé Moustique et Le Morgue ont publié les premiers articles qui parlaient de X1, qui n'était pas encore à ce moment-là Réginald Ouf, puisqu'elle
Mmh,
était toujours anonyme,
tout à fait.
j'ai un tas de collègues journalistes qui m'ont téléphoné parce qu'ils pensaient que c'était quelqu'un d'autre.
Pourtant,
C'est un des éléments du problème, hein, c'est que les journalistes n'ont pas toujours eu le temps, tous, de suivre ces dossiers en profondeur.
ça, c'est
Et on se
clair,
fait très vite
mais
larguer.
Dans le public, il y a aussi une fausse perception, c'est que le monde, pour le public, c'est le cas, mais on a l'impression que le monde, et y compris le monde de la presse, a appris l'existence des dossiers X au moment de la publication par De Morgan et Télémoustique en janvier 98. Or, finalement, ce qui avait suscité toute cette effervescence dès la fin 1996, c'était justement ce que suscitaient les témoignages des X en coulisses, et les journalistes étaient au courant qu'il se passait quelque chose et ils étaient dans le secret des dieux.
Oui, tout à fait. Et personne ne réagissait, et je pense que personne n'en aurait probablement jamais parlé si on n'avait pas décidé, Douglas de Kooning, Anne Bibulté et moi-même. Il y a eu aussi Eric Rickberg au matin, il y a eu Michel Bouffioux. On a été quelques-uns, mais ça s'est passé d'une manière finalement pas tellement compliquée. Au mois d'août 97, l'affaire du trou donc a éclaté depuis un an, et il y a un tas d'articles de presse qui expliquent qu'on a éjecté l'adjudant de gendarmerie Patrick de Batz
Oui.
des enquêtes. Il faut savoir que Patrick de Batz, c'est le gendarme qui interrogeait le témoin X1. Et celui-là uniquement. Il y a d'autres gendarmes qui interrogeaient d'autres témoins X. Enfin. Et c'est un gendarme qui avait une excellente réputation. Et je me suis renseigné. J'ai essayé, comme font tous les journalistes, on part à la pêche aux informations, essayer de comprendre pourquoi on l'avait éjecté. Et on m'a chaque fois avancé de mauvaises réponses. Parce que je connaissais une partie de cette enquête et j'avais eu l'occasion de rencontrer un témoin X auparavant,
Qui n'était pas X1.
qui n'est pas X1. Et on m'a donné des mauvaises réponses. Il y a différentes traces, hein, du fait que les journalistes ont obtenu de mauvaises réponses de leurs informateurs et qu'ils les ont publiées.
Oui, on en
Parce
reparlera d'ailleurs.
que. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'enquête sur ces témoins X a toujours très très bien
Tourner.
progresser, oui. On l'oublie aujourd'hui, hein, parce que, comme tu disais, le grand public, il l'a connu quand on a révélé l'existence de X1 et trois
Tu peux
mois.
rappeler aussi, en gros, quelle était la teneur de ces témoignages, parce que quand même, c'était effectivement assez effrayant, quoi.
Ben oui, ce sont des témoignages très durs, parce qu'elles, en fait, elles sont des témoignages qui mettent la notion de réseau en avant, donc, et qui parlent de plusieurs personnalités. Je veux le préciser ici parce que pour ridiculiser les choses, certains ont écrit qu'elles accusaient la moitié des personnalités du pays.
Oui,
C'est tout à fait
effectivement.
faux. Il y a quelques personnes qui sont visées, mais elles parlent aussi de faits, pratiquement toutes. Hein. Elles parlent d'enfants torturés, d'enfants très jeunes qui sont abusés, qui sont soit amenées par leurs parents ou par des familiers. Elles parlent, elles décrivent pratiquement tout le même climat qui est celui d'une contrainte terrible, d'une menace sur les enfants, de choses qui empêchent les enfants de parler. Et Regina Louf parle de beaucoup de morts d'enfants ou de jeunes filles. Ce sont des témoignages très durs, ça c'est clair. Je pense qu'il y a probablement des gens qui n'étaient pas prêts à
À les
entendre ce
entendre.
genre de choses, ouais, et que ça peut expliquer aussi une partie du rejet.
Oui,
Mais ce qui est vraiment, mais malgré ce côté un peu outrancier, où je cherche le mot là, de ces témoignages, ce côté vraiment très très dur, il faut quand même bien se rendre compte que jusqu'en juin 1997, donc ça fait quand même 9 mois, presque 10 mois d'enquête, jamais le moindre doute n'a été émis
Et en plus, il
sur
y
ce
a
qui était dit.
certains éléments, pas nombreux, mais concluants, certains éléments des différents témoignages, de différents témoins X qui se recoupent entre eux alors qu'elles ne se connaissent pas.
C'est ça. Elles décrivent des choses qui sont semblables et elles donnent, enfin, Regina Louf a donné énormément de détails qui correspondaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a, à un moment donné, arrêté le travail, arrêté les auditions et poursuivi des recherches, mais ces recherches allaient dans un seul sens, c'était démolir le témoignage que Regina Louf
C'est en
avait
gros à
offert.
partir de mai 1997, c'est bien
Ça
ça?
commence en juin. Le premier rapport de relecture est daté du 2 juillet 1997. Oui,
Oui,
voilà.
justement, il y a ces relectures. C'est quoi
Oui, c'est
exactement?
ça.
Donc, on a destitué l'équipe qui travaillait sur les
Voilà.
dossiers X. On en a mis une autre, mais pas pour continuer l'enquête, pour refaire le boulot, en
Voilà, c'est
somme.
ce que je viens de dire. C'est pour vérifier les témoignages, mais le but officiel, c'était d'essayer de conforter les témoignages et de voir s'il fallait continuer. Seulement, on sait très bien aujourd'hui, puisqu'il y a des textes, des rapports, des notes qui le démontrent, qu'à ce moment-là, pour les enquêteurs qui étaient chargés de ce travail de vérification, c'était déjà terminé. C'était time. Ils avaient jugé que c'était du flan et qu'il fallait arrêter ces enquêtes. Ils ont cherché par tous les moyens. Le premier moyen qui a été utilisé, c'était de mettre deux battes à la porte et de mettre ses équipiers au repos, en congé, en vacances, ou de les renvoyer dans leur
Et par la
unité
suite, d'ailleurs, on a enquêté
d'origine.
sur eux pour essayer de prouver qu'ils étaient de mauvaise foi
Voilà.
aussi.
Et en fait, la mise à l'écart de deux battes ne s'est pas passée sans mal, parce qu'il y a eu des réactions. De Batz lui-même allait réagir, et son supérieur hiérarchique l'a assigné en justice, en l'accusant de fou. Il y a eu une instruction. Le parquet n'a pas ouvert l'instruction contre De Batz, parce que quand même, il a ouvert une instruction contre X. Il y a une instruction qui a été ouverte chez un juge à Bruxelles, le juge Pignolet, qui aurait dû, en 2 heures, se rendre compte que cette plainte ne tenait pas la route, puisque la principale accusation, c'était d'avoir escamoté un procès-verbal. Alors que ce procès-verbal, il fallait vraiment très très peu de temps pour réaliser que ce procès-verbal, il existait bel et bien. Donc, il n'y avait rien à reprocher à De Batz. On a utilisé ce moyen pour le mettre sous le coup d'une enquête judiciaire qui le bloquait, qui l'empêchait de réagir. Et cette enquête judiciaire, cette instruction, qui aurait dû être terminée en une semaine, disons, elle a duré 2 ans.
Et on a aussi annoncé à grand renfort de publicité médiatique qu'on allait voir ce qu'on allait voir, de Batz allait être démasqué, etc. Et puis en silence, c'est retombé comme un soufflet.
Oui, c'est ça. Donc ça n'a rien démasqué du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on continuait, nous, à poser des questions et qu'on demandait, par exemple, mais comment... Bon, il faut savoir que grâce au témoignage de Regina Louf, on a pu rouvrir plusieurs dossiers judiciaires qui n'étaient pas élucidés, dont celui du meurtre de Christine Vanesse.
La principale affaire de son
Voilà.
témoignage, oui, tout à
Oui.
fait. Tu peux le rappeler en
Oui, une
une
jeune
minute?
fille. Christine était une jeune fille de 16 ans, qui a été, dont le corps en partie carbonisé a été retrouvé dans une champignonnière abandonnée, ici au boulevard à l'angle de la rue de la Stratégie du boulevard du Souverain,
À Auderghem.
oui, à Auderghem. Et Regina Louf a très rapidement dans son témoignage déclaré que cette fille faisait
En
partie,
1984,
c'était en
donc. Hein.
84, oui, et que cette fille faisait partie du groupe et qu'elle avait assisté à la mort de Christine Vanesse. Alors,
C'est là aussi qu'on a le lien avec l'affaire Dutroux, puisqu'elle prétend qu'il y avait sur place Nioul et il me semble aussi Dutroux, mais ça, j'en suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est là que se fait le lien,
mais ce qui est
entre
encore
autres.
plus extraordinaire, c'est que quand donc l'affaire du meurtre de Christine Vanesse va être remise à l'instruction, et quand on va Quand les enquêteurs vont revoir ce dossier, ils vont se rendre compte que des tas de pistes menaient déjà vers ces personnes et qu'il n'était même pas nécessaire d'avoir le témoignage de Regina pour y arriver. Il y a beaucoup de pistes qui tournaient autour de ces deux inculpés de Neuchâtel. Mais Regina Louf a également donné des éléments très précis de détails qui sont extrêmement troublants, à moins de pouvoir, je sais pas, hein, parce qu'on dit toujours que ce croyant, non-croyant, si on imagine que Regina Louf est un médium, alors d'accord. Mais je ne vois pas autrement comment elle peut donner, par exemple, l'ancienne champignonnière abandonnée a été détruite 2 ans après la mort de Christine Vanesse. Donc, les lieux, il n'y avait plus rien. Or, donc en 86, or, Regina Louf donne une série de détails vraiment très très précis sur l'intérieur de la maison et des caves de la champignonnière qui sont plus que troublants. Les enquêteurs, dans le début de travail de vérification, ont demandé aux enfants qui ont habité cette maison avant qu'elle ne soit à l'abandon de contrôler les parties de description du récit de Regina. Ils ont trouvé 12 points qui étaient tout à fait corrects, qui étaient parfois mal situés dans la maison, mais même le fait qu'elle décrit une maison avec des escaliers partout et plusieurs niveaux
Oui, il y a des choses assez
correspond tout à fait.
particulières
Correspond
qui.
tout à fait. C'est une ancienne maison. C'est une maison en fait qui en réunit ces deux et qui a différents niveaux. Regina Louf décrit un escalier avec une partie en bois, une partie vitrée. Elle décrit des rosaces. Elle donne le dessin entier d'une cheminée en marbre avec la couleur. Elle donne le dessin d'une porte, un dessin de papier peint. Elle parle de 3 crochets de boucherie dans un
Enfin,
plafond. Enfin,
clairement,
ce sont des
il y a
détails
des
qu'on ne peut
éléments,
pas
quoi.
inventer. Il n'y a
Tout à
pas,
fait.
il n'y avait pas de photos de ces lieux. On pouvait pas. Parce que c'est ça, le grand point, c'est qu'on a dit que Regina Louf avait donné tous ces éléments parce que les enquêteurs les lui avaient soufflés. Alors ça, c'est déjà très difficile parce qu'il faut vraiment en connaître un tas de détails précis sur d'aussi vieux dossiers d'enquête pour pouvoir le faire.
Mais on
Mais
reparlera justement de la manipulation des auditions, qui a été effectivement un point crucial des accusations des non-croyants, puisqu'on les appelle comme ça. Mais là, dans l'immédiat, pour un peu récapituler, donc l'enquête tourne vraiment bien jusqu'à la mi-97. À la mi-97, elle est stoppée avec les relectures, le procès contre De Batz, etc. Et c'est finalement ce qui pousse De Morgenay et Télémoustique, l'arrêt des enquêtes les pousse à publier, à jeter le pavé dans la mare, pour justement faire avancer ces enquêtes. Alors bon, le pavé dans la mare, il est là, aussi bien dans la presse, c'est un tollé, dans le monde judiciaire aussi, dans le monde politique même un peu. Et finalement, ce qui se passe aussi, en particulier dans la presse, c'est que les autres journaux apportent des réfutations, entre guillemets, mine de ne pas y toucher, c'est-à-dire qu'ils disent oh, c'est de la violation du secret de l'instruction, nous ne participons pas à ça. Mais sur des éléments précis, ils vont quand même relever certaines contradictions, certaines vraies, certaines fausses, et sur base de ça, mais sans donner au public les éléments qui concordaient, sur base de ça, ils vont envoyer promener toute l'affaire. Donc, j'ai parlé de cette affaire aussi avec Gérard Rogge, notamment sur la façon dont, au nom de la loi, a vu et a traité les dossiers X, et je te propose d'écouter cet
D'accord.
extrait-là, après quoi tu pourras réagir. Par rapport à ce qui a été dit dans le nom de la loi, à mon sens, il y avait certaines carences, c'est-à-dire que bon, il y avait plusieurs témoins X avec plusieurs témoignages fort différents, mais certains éléments de ces témoignages se recoupaient entre eux, et ça, il me semble qu'on n'a pas fort insisté là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire dans le nom de la loi, mais aussi dans le chef simplement de X1 en tant que témoin isolé, il y avait de nombreux éléments qui étaient vérifiés, durs comme fer, et il y avait évidemment tout à fait des contradictions, mais finalement, on n'a parlé que des contradictions et pas des nombreux éléments vérifiés qui avaient paru notamment dans De Morgan et qui jettent quand même une autre lumière sur l'affaire, non?
Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Je crois que les enquêtes ont parfaitement montré que le récit de Regina Louf ne tenait pas debout, notamment par rapport à l'affaire principale qui était l'affaire de l'assassinat de Christine Vanesse. Il y a des dizaines et des dizaines de points qui ne concordent pas avec la vérité, des points qui ont été vérifiés, et sur ces dizaines et dizaines de points, mais qui sont vraiment essentiels, à côté de ça, il y a quelques points de détails ma collègue Valeswijk a relevé et qui en fait sont des détails qu'on a montés en épingle pour faire croire à la réalité du témoignage de Hixin sur la mort de Christine Vanès. Mais ça ne résiste pas à une analyse profonde et minutieuse telle qu'elle a été faite par le juge d'instruction Van der Merch.
Mais s'il est si évident que Hixin mentait, ou en tout cas se trompait, pourquoi est-ce qu'il y a eu de nombreux mensonges dans la presse en sa défaveur, alors que ça ne devait pas être nécessaire si les choses étaient si évidentes? Juste un tout petit exemple pour illustrer, notamment, il s'agit justement de l'affaire Vanès. Il y a une confrontation entre Hixin et les parents de Christine Vanès, et à cette occasion, la mère de Christine Vanès avait tendu un piège à Régine Alouf en disant « Ah voilà, Christine voulait partir au Canada », et d'après la presse, Régine Alouf avait complètement marché dans le piège, elle était tombée dans le panneau, elle avait dit oui, son voyage au Canada, etc. Et c'est ce que la presse a rapporté. Il s'est avéré plus tard qu'elle avait pas du tout, qu'elle n'était pas du tout tombée dans le panneau et qu'elle avait dit non, je n'en sais rien. Et ça a été confirmé par Paul Sommers, substitut du procureur du roi à Bruxelles. C'est pas le seul cas comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce genre de
Moi, je ne suis
choses-là?
comptable que de mes propres
Oui, bien sûr.
écrits ou de mes propres reportages. Donc, je n'ai jamais avancé ces détails-là. Ce que j'ai fait, c'est d'essayer de voir par rapport à l'enquête qui avait été faite, ce qui avait été réellement trouvé par rapport au témoignage de Hixin. Là, les choses sont claires. X1, clairement, n'a jamais rencontré Christine Vanès. Elle ne sait pas qui elle est parce qu'elle se trompe sur de multiples détails, pas simplement sur des détails, sur des choses très importantes. Il n'y a rien qui tient dans son récit sur Christine Vanès, rien qui tient d'essentiel, par exemple, l'heure, le lieu, etc. Enfin, il y a vraiment. Aussi, le modus operandi de ceux qui ont assassiné Christine Vanès, ça ne correspond pas du tout au récit de X1. Et pour le reste, on viendra évidemment avec quelques détails dans le style. Ah oui, mais vous savez, il y avait une marche à tel endroit, etc. Vous savez, on pourrait me demander ou demander à n'importe qui d'inventer n'importe quoi. Eh bien, on trouvera toujours l'un ou l'autre petit détail qui clope, comme la couleur des volets ou des choses comme ça.
Ce qu'on vous a reproché aussi, c'est la façon dont vous avez parlé de Régine Alouf. Tout le monde, ou à peu près, s'accorde à dire qu'elle a été effectivement victime d'abus sexuels massifs dans son enfance et qu'elle est lourdement traumatisée. Et dans votre émission, on en parlait comme d'une folle avec ses délires pornographiques, etc. Est-ce que vous faites ça parce que vous ne reconnaissez tout simplement pas qu'elle a pu être victime d'abus sexuels? Ou alors, si vous le reconnaissez, comment justifiez-vous la façon dont vous en avez parlé?
D'abord, encore une fois, c'est vous qui le dites, hein, qu'elle a été massivement
Non,
abusée
non, non, là,
dans
c'est pas moi qui le
son
dis. Là, c'est pas moi qui le dis.
jeunesse.
C'est des
Donc,
rapports, des expertises psychiatriques.
vous pouvez chercher, vous ne trouverez aucun jugement ou quoi que ce soit qui dit cela.
Pourtant, enfin.
Ce qui est avéré,
Il y a pourtant son
c'est que
souteneur à l'époque qui a avoué devant la justice de Gand avoir abusé d'elle.
j'allais vous en parler.
Oui.
Ce qui est avéré, c'est que Regina Louf a effectivement été abusée par un ami de sa famille, un certain Tony. On n'est pas très sûr de l'âge que Regina Louf avait à cette époque,
Ben
mais
d'après Tony, 12 ans.
pardon?
D'après Tony, 12 ans, c'est ce qui
Non,
a été
non,
noté par la justice.
ça varie. Certains disent 12 ans, d'autres 14
Non,
ans.
Tony a dit 12 ans, c'est acté dans les PV de la justice de
Mais
Gand.
il y a une contradiction à ce niveau-là. Mais donc je constate qu'effectivement, Régina Louf a été abusée, en tout cas qu'elle a eu des relations sexuelles assez intenses avec Tony à cet âge-là, ce qui n'en fait pas forcément un témoin crédible pour le reste.
Non, bien
Même
sûr,
ces
c'est pas
choses
ça
ont
la
été
question.
vérifiées.
On se.
À partir du moment où quelqu'un vient, disons, accuser la moitié de la Belgique, la moitié des gens importants en Belgique, ministres, magistrats, et autres, en disant, voilà, tous ces gens m'ont abusé lorsque j'avais 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et que l'on s'aperçoit que tout ça est faux, ben, je crois qu'il faut, les dire les choses très clairement. Moi, je n'ai absolument rien contre Regina Louf. Je trouve que Regina Louf, disons, a manifestement un problème, qu'elle a peut-être essayé de résoudre ce problème en passant par la justice, par les médias, en proférant un discours un peu mythique sur la grande partie de ses déclarations. Finalement, j'ai un peu de pitié, j'ai de la pitié pour cette personne, mais j'en ai moins pour ceux qui ont exploité, disons, son témoignage, qu'il soit policier ou qu'il soit journaliste.
J'ai clairement envie de
Je
dire.
suis sidéré, je suis scandalisé par tout ce que je viens d'entendre.
Hein?
Et vraiment, je comprends quand j'entends ça pourquoi on n'arrive jamais à avoir une discussion réelle, profonde et correcte sur ces problèmes-là. On a écrit les dossiers X parce qu'on voulait justement étaler, exposer en détail tout ce qu'on avait appris pour permettre à certains de comprendre. Quand j'entends ce que dit Gérard Rock, je suis scandalisé. D'abord, il n'y a pas des dizaines de points qui ne collent pas dans les témoignages de Regina Louf et quelques-uns qui collent. Et nous, on n'a pas contorsionné la vérité pour
Disons
arriver
qu'il y a
là.
effectivement des contradictions et c'est logique dans la
Mais
mesure
il
où
y en
c'est
a,
des
bien
faits très
sûr.
anciens
Bien
et
sûr, il y en
racontés
a.
par un témoin
Bien sûr, il y en a.
traumatisé.
S'il n'y avait pas de contradiction, alors c'est à ce moment-là qu'il faudrait vraiment mettre un témoignage en doute. Bien sûr, il y en a. Et quand il y en a, on en parle dans le livre, les dossiers X. Mais
Mais elles sont
il
moins
faut.
nombreuses que les points qui collent.
Oui, alors surtout ce qu'il y a, c'est que quand j'écoute Gérard Rock, j'ai l'impression d'entendre ce qu'il y a dans les fameux rapports de relecture qui sont tant contestés et qui ont servi à démolir cette enquête. Et on sait très
Oui, je ne sais
bien.
pas si on l'a dit au cours de l'émission, mais ce sont, en clair, vous le démontrez dans le bouquin, des falsifications, grossières, quoi.
Voilà, en fait, on a pris point par point des extraits. Je vais donner un bête exemple pour que tout le monde comprenne, ceux qui ne connaissent pas le dossier. On dit qu'une question est suggestive en montrant un extrait d'audition. Il faut savoir que les auditions de Regina Louf faisaient durer des heures, hein, donc font des milliers de pages. Mais en prenant un extrait d'une page d'audition et en disant, vous voyez, à telle question, c'est l'enquêteur qui suggère l'idée qu'il y a dans cette scène un couteau, par exemple. Or, il suffit de feuilleter les auditions quelques pages auparavant, parfois plus que quelques pages, pour voir que c'est Regina Louf elle-même qui l'a dit.
Mais
Les relectures,
là,
c'est
on aura
ça.
un exemple très concret dans 5 minutes. Ce sera assez une démonstration assez
D'accord,
flagrante.
mais je ne comprends pas. Regina Louf n'a rien à faire de la pitié de Gérard Rock, mais moi je n'ai pas de pitié non plus pour ce genre de réflexion. Je crois que quand on se contente, il y a un élément tout simple. Ces rapports de relecture font toujours aujourd'hui l'objet d'une instruction. Il faut savoir que les gendarmes qui ont été évincés de Batz et Bill et leurs collègues, sur base de ces faux rapports qui les ont quand même discrédités, il ne faut pas oublier que ces gens, ils ont été traînés dans la boue. On leur a tout collé sur le dos. On les a accusés, Gérard Rock vient encore de le dire, tu l'as entendu, d'avoir fait fantasmer le pays parce que la moitié de.
Oui, tout à
Ça,
fait.
c'est
C'est
incroyable
ce que tu
d'entendre des
disais tout
choses
à
comme
l'heure.
ça. C'est fou. Hein? Donc, ils ont décidé de se défendre et après avoir été blanchis, complètement blanchis. Autant du point de vue judiciaire que du point de vue enquête interne à la gendarmerie. Ils sont d'ailleurs réintégrés aujourd'hui.
Et ironiquement, De Batz donne des cours de technique d'audition alors qu'il était accusé d'avoir complètement manipulé et foiré les
C'est quand
auditions.
même extraordinaire que personne ne se pose des questions. On se demande dans quel pays on vit, hein. Alors, ils ont introduit maintenant, eux, il y a déjà un certain temps d'ailleurs, parce que ce sont des actions qui traînent, des actions en justice. Et il y a une instruction. Parce que qui est chargé de voir s'il y a des faux qui ont été commis pour arrêter ces enquêtes. Et Regina Louf, à un moment donné, a estimé qu'elle devait se constituer partie civile dans ce dossier parce qu'elle avait elle aussi un intérêt. Elle entendait expliquer que les relectures qui avaient nui aux enquêteurs de Batz et autres avaient également discrédité tout son témoignage. Sa constitution de partie civile a été rejetée tout d'abord, mais elle a été acceptée en appel. Et en appel, la Cour a ordonné qu'une enquête soit menée par un service indépendant, et c'est le comité P qui a été désigné, et l'enquête du comité P a commencé. Donc, comment peut-on aujourd'hui tenir ce discours de prendre pour argent comptant ce qui est écrit dans ces relectures? Il y a un livre de 540 pages qui explique les manipulations incroyables qui ont été faites pour justifier a posteriori l'arrêt des enquêtes. C'est vraiment ça qui s'est passé, hein, et en tenant ça bien soigneusement caché, autant du grand public que des membres de la commission d'enquête parlementaire. Et alors, Alors, un élément qui est encore incroyable aussi, c'est quand Gérard Rock dit, il y a, on ne sait pas, 12 ans, 14 ans, c'est pas vrai, on le sait. C'est la substitute qui a participé à la confrontation entre Réginalouf et son souteneur, qui a dit elle-même dans son point de presse qu'il avait reconnu avoir abusé d'elle à 12 ans. Alors, si maintenant on ne fait plus confiance à la parole de la substitute, où va-t-on?
Et
Et
le même
enfin,
jour, on
dernière
a
chose, et on a arrêté
officiellement arrêté les enquêtes,
toutes les
soi-disant, en tout
enquêtes. Donc on
cas.
obtient une partie d'aveu. Mais Gérard Rogge oublie quelque chose d'important. À partir du moment où ce proxénète, ce souteneur, enfin je ne sais pas comment l'appeler, de Régina Louf reconnaît cela, reconnaît que les parents de Régina Louf étaient au courant, qu'elle avait 12 ans, qu'il allait la chercher à l'école, qu'il montait dans sa chambre, enfin bref, au vu et au su de ses parents. Comment est-ce que Gérard Rock explique une émission qu'il a faite où il a présenté uniquement quatre personnes, le père, la mère, un cousin de Régina Louf et une vague copine? Comment est-ce qu'il peut expliquer qu'il a fait une émission entière dans laquelle il a laissé les parents de Régina Louf expliquer qu'elle mentait et qu'il les a présentés? Il a utilisé des phrases du
Alors qu'ils ont
style, les
avoué eux-mêmes aussi
pauvres
devant la
parents.
justice qu'ils
Mais
étaient
bien
complices de
entendu,
ces abus,
au
quoi.
moment où l'émission de Gérard Rock passait à l'antenne, les procès-verbaux d'audition des parents de Régina Louf commençaient déjà par « Je vais maintenant vous dire la vérité. Il est exact que notre fille avait ce monsieur, et que ce monsieur avait toute liberté sur notre fille, et patati et patata. » Donc ça, c'est pas du travail
Ben, je
journalistique.
crois que tu as bien illustré tes désaccords avec Gérard Rogge. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une heure et qu'on doit continuer. Donc, je poursuis la chronologie. Hein. On en était au silence médiatique qui a suivi l'ébullition et puis l'arrêt des enquêtes, etc. Et la publication aussi dans De Morgan et Télémoustique. Ça a été de nouveau une grosse ébullition et puis de nouveau un grand silence. Et en novembre 99, vous publiez les dossiers X, donc toi, Annemie et Douglas. Là aussi, on s'attendait à un pavé dans la mare et en fait, c'est la poursuite du silence, contrairement au moment des publications initiales dans les journaux. C'est finalement presque de la censure, quoi.
Ah oui, mais c'était
Et tous les
beaucoup.
journalistes ont lu ce bouquin et il n'y en a pas un qui en a parlé, ou très
Ben,
peu,
j'en sais
ou
rien.
alors pour le démolir,
Moi, je me demande,
complètement.
mais je me demande quand même s'ils l'ont lu, c'est pas possible.
Gérard
Non, non.
Rogge l'a lu et justement, je lui en ai parlé. Dans l'extrait qui suit, on l'entend parler notamment des dossiers X, mais aussi du livre de René-Philippe Dahouan, qui a été fait en collaboration avec Au nom de la loi d'ailleurs, et dans lequel, pardon, on a relevé une erreur, erreur que je détaillerai après l'écoute de l'extrait. Alors, il y a plusieurs livres qui ont paru sur cette affaire, dont un en collaboration étroite avec votre émission, c'est celui de René-Philippe Dahouan, L'enquête manipulée. Vous n'avez pas manqué d'en faire la promotion dans votre émission, encore tout récemment, il y a quelques semaines.
Oui, mais surtout que c'est un livre auquel nous avons participé.
Oui, tout à fait.
Donc nous le trouvons très bon.
Mais pourquoi continuer à faire la promotion? Là, je parle uniquement des dossiers X, d'un livre qui s'est tout de même lourdement trompé, notamment en citant erronément, c'est le moins qu'on puisse dire, les rares passages qu'il cite des auditions des X1. Donc, dans le livre, il est dit que...
Encore une fois, vous allez chercher la petite bête. Bon, c'est un livre assez important et très long. Et dans ce livre, effectivement, il y a une petite erreur de
Non, non,
retranscription.
non, non.
Il y a une petite erreur de retranscription qui a été corrigée. D'ailleurs, René-Philippe Dahan l'a admis, ce qui ne change absolument rien au fond du problème.
Oui, enfin, j'aurai l'occasion de citer dans l'émission les deux versions du PV. J'appelle pas ça une petite erreur de
Toujours aller
retranscription.
chercher n'importe quoi, la petite bête, etc. Enfin, mais je crois que c'est pas ça un travail journalistique. Je crois qu'il faut prendre les choses dans leur ensemble.
Mais donc pour vous, la façon dont René-Philippe Dahan a cité ces PV-là, c'est du travail journalistique.
Non, dans tout travail, bon, il peut y avoir à certains moments quelques petites erreurs. Bon, il faut voir maintenant si ces erreurs ont obéré la réalité. Et ce n'est pas le cas. Ces erreurs ont été reconnues et pour le reste, je ne pense pas que l'on puisse mettre en doute ce livre de René-Philippe Daron.
Il y a eu un autre livre que vous n'êtes pas sans connaître, ça s'appelle Les Dossiers X, dont un des auteurs est en studio et qui n'a pas bénéficié de la même couverture de presse. D'abord, est-ce que vous l'avez lu?
Oui, je l'ai lu.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'étais un peu mal à l'aise. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon passage sur ce dont nous discutions tout à l'heure, sur cette personne, Ramakers, donc cette personne qui était arrêtée, détenue pour.
Oui, en bref, qui a téléguidé les fouilles de Jumet, quoi.
Voilà.
Oui.
Alors, j'ai trouvé dans le livre que c'était un bon chapitre où je retrouvais, disons, toutes les qualités de Marie-Jeanne Van Heeswijk, l'objectivité, le travail, surtout l'objectivité. Et elle aboutissait à dire qu'effectivement, cette personne avait mené les enquêteurs en bateau. Je ne suis pas d'accord, c'est qu'on laisse sous-entendre que derrière tout ça, il y avait encore un grand complot. Bon, là, c'est le domaine du fantasme. Mais en revanche, je suis vraiment déçu que Marie-Jeanne Van Heeswijk n'ait pas utilisé la même méthode appliquée notamment au témoignage de X1.
Oui, justement, j'allais vous en parler parce qu'il y a une différence essentielle par rapport au livre de René-Philippe Daouan qui saute aux yeux, à mon avis, quand on juxtapose les deux livres. Ce sont les sources. En fait, dans les deux, il y a pas mal de notes de bas de page ou de fin de chapitre. Et chez René-Philippe Daouan, ce qui est cité, c'est en grande majorité des articles de presse. Et
Non, pas
pour,
tout le temps.
attendez, pour diviser en clans.
René-Philippe Daouin a fait un travail minutieux, a été rencontré des personnes. On a même dit que Régine Alouf a même dit que René-Philippe Daouin n'était jamais venu le rencontrer, ce qui est faux. Elle l'a rencontré et j'y étais. Et nous sommes entretenus avec Régine Alouf pendant au moins 2 heures.
Reste qu'à la lecture des notes, il y a quand même vraiment un grand nombre d'articles de presse qui sont cités en tant que source. Et en général, pour diviser les gens en clans, de la presse dite amie. Par contre, quand on regarde
D'autres
par
personnes
contre, quand on
qui étaient
regarde
témoins.
les sources des dossiers X, il s'agit presque exclusivement de PV dont les numéros sont cités et dont l'authenticité n'est jamais remise en doute. Et tout le monde s'accorde d'ailleurs à dire que les auteurs des dossiers X avaient à peu près 90% du dossier en main, tandis qu'apparemment René-Philippe Daouan cite très peu de PV qu'il a vus, et quand il en a vu, apparemment il les cite erronément. Vous trouvez pas que c'est une différence fondamentale entre deux livres?
Non, je vous le dis, René-Philippe Daouin a fait un travail très minutieux, très professionnel. Il a rencontré des témoins, il a rencontré aussi des journalistes et il les a cités. Mais il y a tout un travail vraiment très profond qui a été fait par René-Philippe Daouin. Bon, quant au travail de Marie-Jeanne Van Heeswijk, je préfère ne pas m'étendre sur la chose.
Ben nous, on s'est étendu sur la chose. Avant que tu ne réagisses, j'aimerais juste aller chercher la petite bête, puisque d'après Gérard Rock, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, expliquer que dans le livre de René-Philippe Daouan, il y a un chapitre de 40 pages qui parle des dossiers X. Et c'est en grande majorité des considérations sur le syndrome de la mémoire, du souvenir retrouvé, des faux souvenirs, de la mémoire retrouvée, enfin bref, de la théorie psychologique. Et puis, quand on en arrive aux faits, pour démontrer justement que les auditions ont été manipulées, René-Philippe Daouan cite des PV, et notamment cet extrait-ci sur les circonstances du meurtre à la champignonnière, où Christine Vanesse avait donc été brûlée. La question de l'enquêteur, c'est: est-ce que vous sentez une odeur? Régine Alouf répond non. Pouvez-vous décrire cette odeur? Donc elle a répondu non, mais il insiste quand même en disant: pouvez-vous décrire cette odeur? X1 répond en disant: si vous savez ce qui se passe, pourquoi voulez-vous que je vous le dise encore? Question: il la brûle, ne le voyez-vous pas? N'avez-vous pas une image de ce qui se passe? Donc clairement là, l'enquêteur suggère le fait qu'on brûle Régine Alouf. Dans le vrai PV, dont l'authenticité a été confirmée par le parquet de Bruxelles, ça donne est-ce qu'il y a une odeur à cet endroit? Alors elle commence par hésiter, puis on répète la question: est-ce qu'il y a une odeur à cet endroit? Elle dit oui. Pouvez-vous décrire cette odeur? Elle répond non. Et puis elle s'énerve un peu. C'est des auditions qui sont passées dans un climat assez émotionnel. Elle dit: si de toute façon vous savez ce qui est arrivé, pourquoi voulez-vous que je vous le répète? Et puis l'enquêteur essaye d'être patient. Il dit: non, je ne sais pas ce qui est arrivé. Enfin, peut-être que je le sais, mais de toute façon vous voulez m'aider. Vous devez m'aider. Est-ce que vous voulez m'aider? Et elle finit par dire oui. Et ben finalement ils l'ont brûlé. Donc, en fait, ce que René-Philippe Dahan lui-même, et ici de nouveau Gérard Rogge, a toujours appelé une petite erreur de retranscription, est en fait une distorsion complète de tout le sens de cette audition, où ils font semblant que l'enquêteur amène la réponse alors que ce n'est pas le cas. Et ce serait juste une petite erreur de transcription qui ne change rien aux propos, alors que c'est plus ou moins le seul PV qui est cité, quoi. Juste,
C'est pas une
voilà la
petite
petite bête
erreur,
qu'on est allé chercher.
c'est pas une petite erreur
Non,
puisque le
non, tout à
tribunal a
fait.
estimé que c'était quand même une faute grave, même si le tribunal a dit que ça. Mais je trouve ça. Il y a deux exemples d'ailleurs, hein. Il y en a un second qui est comme ça aussi, mais je trouve extraordinaire. D'abord, je savais pas que Gérard Rock avait lu mon livre. Là, je suis encore plus sidéré parce qu'il a quand même. Ou alors il l'a mal lu, ou il n'a pas lu attentivement. Mais je continue à dire que quand on veut voir seulement une partie des faits, on ne fait pas son travail de journaliste convenablement. Il faut essayer, il faut vraiment aller voir tous les faits. Et je constate quand même qu'au fil du temps, tout ce qu'on a avancé dans ce livre, les dossiers X, rien n'a été contredit jusqu'à présent. Loin de là, on vient, il y a une semaine, d'obtenir un jugement qui nous donne raison. Donc un gendarme, je ne le citerai pas, nous avait attaqué en justice, en diffamation. Et le tribunal a examiné toutes les preuves qu'on a apportées et le tribunal a estimé que nous avions fait l'enquête mieux que lui.
C'est
Donc, et
significatif.
c'est sur base de rapports de ces gendarmes qu'on a arrêté toutes ces enquêtes. Et c'est extrêmement grave parce qu'au-delà de ce qui s'est passé dans les médias, il y a eu en Belgique un climat dans lequel on a dit aux victimes, taisez-vous maintenant, ne venez plus parler à la justice. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter.
Alors hélas, on arrive au terme de cette heure. J'avais encore beaucoup de sujets à aborder. J'ai peut-être encore juste une petite question à poser. Il y a bien une raison pour laquelle toutes ces enquêtes ont été arrêtées de façon aussi drastique. Il y en a certains qui disent, et c'est notamment le cas dans votre postface des dossiers X, vous dites, il y avait un dogme, c'était il ne peut pas y avoir de réseau parce qu'on ne peut pas se le permettre, parce que ça cadre pas dans l'image du pays, etc. Donc tout simplement, on n'est pas allé chercher. À la lecture du livre, on se dit aussi, il y a un détail qui n'est pas du tout exploité, mais il y a notamment le fait que X3 a donné des témoignages dans lesquels apparaissaient des membres de la famille royale et que ce serait sans vérifier qu'on s'est dit non, impossible, pas la famille royale, pour ça on doit saboter tous ces témoignages, et c'est notamment le sens d'un article qui avait paru dans Alternative Libertaire et qui n'avait été repris que par Le Matin dans toute la presse belge. Il y avait aussi une fois Françoise Van de Mortel qui, lors d'un congrès à l'UCL, avait posé la question face à face à l'actuel ministre de la Justice, Mark Verheugen. Elle avait demandé l'affaire Dutroux s'arrêtait-elle au gris du Palais Royal. Alors, dans le livre, c'est juste suggéré, mais on n'y touche pas. Est-ce que c'est une piste plausible?
C'est-à-dire que c'est suggéré parce que ça fait effectivement partie du témoignage de cette
C'est dans les
personne,
PV.
c'est dans les PV, donc qu'est-ce que ça a pu provoquer comme réaction? On imagine bien que ça ne doit pas être facile à gérer et que beaucoup de gens ont dû avoir une sacrée frousse, ça c'est fort possible aussi, mais je pense que des motifs d'arrêter ces enquêtes, il y en a eu des tas, et quand on voit dans la chronologie comment ça s'est passé, par exemple, il suffit de lire le bouquin de Verheugen qui s'appelle Parole d'homme de Daniel Le Gems et Raph Sauvillers, pour se rendre compte que dans ces eaux-là, en mai-juin, au moment où les enquêtes vont s'arrêter, Verheugen, président de la commission parlementaire, est convoqué au parquet de Bruxelles et il est reçu par le juge d'instruction Van Espen, qui a repris le dossier de la champignonnière, donc la mort de Christine Vanez, le procureur de Genève est là, et la substitut de Somers, qui est en charge du dossier. Et Verheugen écrit qu'on lui a interdit de toucher au dossier de la champignonnière. Il le dit texto, c'est comme si on avait touché un nerf à vif. Il comprend pas lui-même ce qui se passe. Alors,
Ça
qu'est-ce qui
paraît
se passe? C'est que
clair.
la seconde partie des travaux de la commission parlementaire, elle allait s'intéresser aux protections. Mais ce qui se passe aussi, c'est que le juge d'instruction Van Espen s'est rendu compte à un moment donné que qu'une grande partie de la première enquête à partir de 84 sur la mort de Christine Vanez n'avait pas été bien menée. Et que, effectivement, dans ce dossier, on trouvait, tiens, par hasard, des pistes qui menaient vers les actuels inculpés du dossier de Neufchâteau. Oh là là, mais tout ça, c'est des choses qui à un moment donné en explique d'autres.
On aurait encore pu parler aussi des liens de l'affaire X1 avec les balais roses, enfin plusieurs grandes affaires de ce pays, les balais roses, les tueurs du Brabant, etc. Certains liens ténus, mais tout de même très intéressants. Hélas, on n'en a pas le temps, on est déjà suffisamment empiété
Ah bon?
sur la prochaine émission.
Ah non.
Désolé, ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission, éventuellement au moment du procès de Marc Dutroux. Le problème, c'est que ce problème-là est tellement vaste qu'il y a à
Ah
peine
oui.
moyen d'en parler pendant une. 1 heure. En tout cas, Marie-Jeanne, merci mille fois
Hein?
d'être venue témoigner dans cette émission.
Merci à vous.
Voilà une émission un petit peu plus longue que d'habitude, mais certainement aussi intéressante que les autres semaines. Merci d'être resté à l'écoute jusque-là pour une bibliographie exhaustive de tout ce qui touche à ce sujet. Je vous propose, au lieu de vous l'énumérer, de retrouver ça sur le site de l'écran témoin, qui en a fait une bibliographie tout à fait complète. Je mettrai d'ailleurs un lien sur le site d'Alter Echo. Voilà, merci d'être resté à l'écoute. À la semaine prochaine.
Lots of coughing. All glory be to God the Father. Water, water, water. All glory be to God the Son.